cette année, en deux cours, 6 heures, cette fois-ci 6 heures en octobre, Jacques et sa théologie. Et donc nous nous arrêterons surtout à l'épître de Jacques. Il y a d'autres mentions de Jacques dans le Nouveau Testament. On trouve des mentions de Jacques dans l'épître aux Galates. On trouve des mentions de Jacques dans les Actes, des mentions assez importantes, mais nous n'aurons pas le temps d'étudier chacun de ces textes. Ce sont des textes importants. Peut-être qu'on fera allusion à un ou l'autre texte dans nos discussions, mais nous n'aurons malheureusement pas le temps d'étudier Jacques et disons, la théologie qui ressort de ces textes, donc des textes autres que le texte de l'Épître. Je pourrais donc lire le petit texte que j'avais écrit. L'Épître de Jacques est une lettre très discutée. Pour les uns, elle représente la première ou l'une des premières lettres du Nouveau Testament. D'autres y voient une œuvre très tardive. Certains discernent en elle un amalgame assez hétéroclite de diatribes. D'autres y découvrent la structure bien ordonnée d'une épître hellénistique. S'agit-il d'un texte juif christianisé, certains le disent, ou d'une homélie d'une haute tenue chrétienne? Après avoir cherché à répondre à ces diverses questions, on s'attachera à l'étude de la théologie de la justification chez Jacques. S'oppose-t-elle à celle de Paul? Ou cherche-t-il à la sauvegarder? Ou encore, son approche est-elle originale? Donc, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de prendre l'épître dans son ensemble. Nous allons un peu travailler cette épître ensemble. C'est de voir si on peut y discerner une structure, voir comment aborder cette épître. Ça, c'est le travail que nous ferons aujourd'hui. Et puis avoir quelques mots, disons, d'introduction, de survol, une vision un peu générale de cette épître. Et la fois prochaine, en octobre, nous aborderons un ou deux textes centraux de l'épître. Et pour discerner quelle est la théologie de Jacques sur les points les plus discutés. Nous n'aurons de nouveau, malheureusement, pas le temps d'approfondir tout ce que Jacques dit. Mais il y a des temps de discussion qui nous permettront peut-être d'aborder des sujets qui vous intéresseraient, auxquels je n'ai pas pensé. Alors, j'aimerais que tout de suite, alors je vais régler un ou deux problèmes rapidement, par manque de temps. Tout d'abord la question de l'auteur de cette épître. Vous savez que il y a eu pas mal de discussions. Qui est ce Jacques? Dans le Nouveau Testament, il est fait allusion à plusieurs Jacques. Il y a Jacques, le frère de Jean, il y a Jacques, fils d'Alphée, il y a Jacques le mineur. Alors, pas certains de ces Jacques sont peut-être les mêmes personnes. Hein. Il y a donc plusieurs Jacques. Et puis il y a Jacques, le frère du Seigneur. Alors, je vais être très rapide et très clair. Bonjour, bonjour, entrez. Je pars du présupposé que Jacques, l'auteur de l'épître de Jacques, est celui que l'on appelle Jacques, le frère du Seigneur. C'est ce Jacques dont il est question dans Actes chapitre 12, si je me souviens bien. Lorsque Pierre dit, après sa libération, « Dites-le à Jacques !» Lorsque Pierre était libéré de la prison. C'est ce Jacques dont il est question dans Actes chapitre 15. On voit que ce Jacques prend de plus en plus de responsabilités dans l'église de Jérusalem. Alors qu'au début, ce sont plutôt les apôtres, et en particulier Pierre et Jean, qui sont mis en avant dans le livre des Actes. Dans Actes 15, c'est Jacques qui, à la fin du concile, premier concile de l'Église, de Jérusalem, se lève et énonce la décision qu'il propose à l'Assemblée. Donc c'est Jacques. Puis on retrouve ce Jacques dans Actes chapitre 21, ce Jacques qui accueille Paul lorsque Paul arrive à Jérusalem et qui lui propose de participer, donc Jacques propose à Paul de participer à la purification de trois personnes qui avaient fait un vœu pour prouver aux habitants de Jérusalem que Paul est respectueux de la loi. C'est donc ce Jacques qui intervient en tant que responsable de l'église de Jérusalem. On retrouve ce même Jacques dans l'épître aux Galates, et lorsque Pierre et Paul et Barnabas mangeaient avec les pagano-chrétiens dans les églises de Galatie du Sud, me semble-t-il, Antioche, Derbe, dans l'église d'Antioche de Syrie, et il dit ça dans la lettre qu'il écrit aux églises de Galatie du Sud. Donc il était là à Antioche de Syrie, avec Pierre et Barnabas, il mangeait avec les pagano-chrétiens, il y a aussi les judéo-chrétiens, ensemble, ce qui ne se faisait pas pour les juifs. Et il est dit qu'il y a des gens qui sont venus, qui arrivent de Jérusalem, et qu'ils viennent de l'entourage de Jacques, et puis les gens, Pierre, Barnabas, des judéo-chrétiens, se séparent des pagano-chrétiens, ne mangent plus avec eux, peut-être même ne prennent plus la scène, que ce sont des repas où on prenait la scène ou pas, on hésite. Et puis Paul se lève et dit, alors là, il y en a marre. Il y en a marre, toi, comment ? Puis à toi, Pierre, qui mange, qui vit à la manière d'un païen, tu peux obliger les chrétiens d'origine païenne à judaïser par ton attitude. Bien. On trouve ça donc dans Galates chapitre 2. Alors, ça ne veut pas dire que Jacques pensait, était d'accord avec la nécessité de se séparer entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. En tout cas, ce sont des gens de l'entourage de Jacques. Et puis alors, Paul, dans Galates, au chapitre 2 aussi, parle d'une rencontre qu'il a eue à Jérusalem avec Pierre, Jacques et Jean. Et il appelle Jacques une des colonnes de l'église de Jérusalem. Voilà donc les mentions principales de Jacques dans la Bible. Si je me souviens bien, on trouve aussi une mention de Jacques dans l'épître de Jude, où Jude se présente simplement comme Jude, frère de Jacques. Comme cela étant suffisant pour se présenter. Jacques est un personnage très connu. Et je crois que ce Jacques-là est toujours le même Jacques. Jacques, le frère de Jésus. Une petite remarque, toute petite remarque, et puis après on va quitter ces textes, que je tire du livre de Christian Grapp, professeur de Nouveau Testament à Strasbourg, qui s'appelle « D'un temple à l'autre », un livre très intéressant, pas du tout évangélique, mais très intéressant, « D'un temple à l'autre », publié par les PUF, Presse universitaire de France, où il fait une étude de l'église de Jérusalem, et il essaye de montrer comment l'église de Jérusalem est passée d'un mode de gouvernement on pourrait dire charismatique, qui correspond à une vocation à des dons, Pierre, Jean, les apôtres, c'est des gens nommés par Jésus, qui sont là en vertu de leurs dons, de leur charisme, de leurs dons, responsables de l'église de Jérusalem. Comment l'église de Jérusalem est passée à un mode de gouvernement de ce type-là, à un mode de gouvernement dynastique. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui prend la responsabilité de l'Église. Je trouve ça très intéressant comme remarque. Suggérant par là que tout mouvement a besoin de s'inscrire dans l'histoire et dans le temps, et qu'il y a un moment où les choses deviennent plus naturelles, plus charismatiques, disons de un appel particulier, on passe à quelque chose de plus dynastique, comme ça se faisait à l'époque, de père en fils. Là, c'est de frère en frère, le frère de Jésus. Je trouve ça intéressant. Et je suis certain qu'on pourrait, dans vos églises, dans nos églises, on pourrait souligner l'existence de dynasties pastorales. Il y a là une une inscription dans le temps, dans l'histoire, d'une réalité ecclésiale qui est très, c'est très intéressant. Mais bon, c'est une remarque, hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une approche un peu plus sociologique des textes du Nouveau Testament qui me semble intéressante. Voilà, donc, il nous faut maintenant aborder l'Épître elle-même, qui est l'un des lieux, peut-être avec Galates et puis Acte 21, l'un des lieux du Nouveau Testament où l'on peut discerner la théologie de Jacques, ce qu'il pense. Alors, il faut dire que Jacques a eu une postérité importante dans l'histoire de l'Église, deuxième siècle, troisième siècle, et peut-être pas une postérité que lui-même aurait souhaité. Nos enfants ne nous ressemblent pas toujours. En particulier, une postérité hérétique, les ébionites, qui se réclamaient de Jacques et d'un christianisme très juif, très judaïsant, qui allait jusqu'à nier la divinité, par exemple, du Messie, de Jésus. Sans Jésus, un Messie humain, mais pas Dieu, qui allait jusqu'à réaffirmer l'unicité non trinitaire de Dieu. Donc il y a eu une postérité hérétique. Il y a aussi une postérité, je dirais, chrétienne, en milieu judéo-chrétien. Bien sûr, ça n'a pas duré très 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 longtemps à cause des destructions de Jérusalem en 70. Vous savez que Jacques lui-même a été mis à mort par le grand prêtre sadducéen en 62, grand prêtre Anne, avec à cause d'une carence de pouvoir du pouvoir romain en Judée. Le gouverneur en place est en partie, ayant été appelé à d'autres fonctions, et le nouveau gouverneur n'était pas encore arrivé, il était en Égypte. Le grand prêtre sadducéen en a profité pour faire lapider, pour faire tuer Jacques. Les pharisiens, nous savons cela par l'historien juif Joseph, les pharisiens ont profondément regretté cet assassinat de Jacques. Il l'appelait le juste. Il trouvait que c'était un homme remarquable. Et Jacques a su se faire aimer, apprécier, bien sûr avec certaines réticences aussi, hein, d'une partie des juifs très pieux. Très pieux. Je peux encore vous lancer une petite idée comme ça, mais à vous réfléchir. Hein, ah oui, vous vous sentez libre d'interrompre, hein, on peut discuter, c'est pas du tout un problème, il faut une grande liberté. En parallèle avec cette histoire de passage du relais de Pierre à Jacques, c'est assez intéressant, je vous encourage à y réfléchir, je vous lance l'idée, je ne dis pas du tout que je suis d'accord, hein. Je ne vous dis pas ce que je pense, mais ça, on pourrait dire que le mode de vie de l'Église de Jérusalem est passé d'un mode de vie assez essénien. Pour ceux qui étaient là au cours des années passées, vous vous souvenez qu'on a vu ce qu'étaient les Esséniens. Ça vous rappelle quelque chose? Qumran et tout cela. D'un mode de vie assez essénien, partage des biens, repas pris en commun, etc., etc. Dans les premiers chapitres des Actes, un mode de vie assez pharisien, dans Acte 21. Ils vont au temple, on fait des vœux, et puis on va même donner un sacrifice au temple. Acte 21. Vous savez que Paul était prêt à payer pour... Il était prêt à payer pour la purification de ces chrétiens que Jacques a présentés de l'église de Jérusalem qui avait fait un vœu et qui allait aller au temple pour sacrifier. pour la purification. C'est ce qui était impliqué dans les rites de purification. Tout ça, ça fait réfléchir, hein, ça pose des questions. Alors comment, c'est intéressant de savoir comment l'Église s'est incarnée dans la réalité juive de Jérusalem de l'époque. Il y a beaucoup de tensions. Tout ça, ça a explosé dans une révolte, dans les années 70, 66, où la guerre a démarré contre Rome, avec le mouvement zélote. Bon, c'est intéressant, ce genre d'évolution de l'Église de Jérusalem. Alors, une des postérités actuelles de Jacques, on va certainement la trouver parmi les juifs messianiques. Toute cette frange de plus en plus importante de juifs messianiques qui se convertissent aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Russie, il paraît que c'est tout le temps qu'il y a des juifs qui se convertissent là-bas. Il y a un étudiant qui est en train de faire un doctorat sur ces questions qui m'a dit que c'est très impressionnant d'après ce qu'il entend dire, les rapports qu'il a. Et aussi en Israël. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a dit qu'on estime à 500 le nombre de chrétiens, juifs messianiques, de juifs d'Israël se convertis. C'est beaucoup pour une petite ville comme Jérusalem, ou un petit pays. Il y a d'autres communautés, il y a encore des communautés où il y a des étrangers aussi. Et alors ces juifs messianiques redécouvrent, je dirais, leur judaïté. Certains en tout cas. Certains disent, non, moi je suis comme les autres chrétiens, je ne suis plus du tout juif. Mais certains redécouvrent leur judaïté au travers de cela. Et se réclament de Jacques. Ils peuvent, pour certains, se réclamer de Jacques. D'un christianisme marqué par la judaïté. Voilà. Alors tout ça, ce sont des remarques que je fais pour introduire, qui n'ont rien à voir avec le cours, mais qui, j'espère, vous donnent envie de creuser un peu ces questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les creuser. Toutes, une ou deux, nous nous arrêterons à l'épître de Jacques. Seulement. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire en un premier temps, c'est de prendre cette épître, la lettre, et de nous demander comment elle se présente. Demander comment, si on peut discerner dans cette lettre une structure, une unité, ou si cette lettre se présente de manière très décousue. Et là, je vous demande de prendre le texte que je vous ai photocopié, c'est le texte de la seconde 1910, donc un vieux texte, français assez ancien, assez littéral, mais bon, c'est celui que j'avais sur mon ordinateur. Oui. Ah oui, on pourrait le faire tout de suite. Vous avez raison. Je vais vous faire un commentaire sur la section bibliographique que je vous propose. C'est vraiment une sélection. Une sélection qui concerne l'épître de Jacques en général, donc les commentaires, et une section qui concerne plus la question de la justification dans l'épître de Jacques. Donc vous avez des commentaires. Alors, on va rapidement les passer en revue. Adamson, commentaire évangélique, qui est assez bien fait en anglais. Jean Cantina, commentaire catholique. Une approche catholique classique, intéressante. Joseph Chen, auteur français, assez ancien, vous voyez, 1927, je l'ai chez moi à la maison. Il est intéressant, mais assez ancien. Peter Davids, un très bon commentaire, comme Julian James, à partir du grec. Excellent commentaire, surtout pour toute son introduction. Je ne le suivrai pas dans tous les choix qu'il fait, même dans son introduction, mais c'est un bon commentaire qu'il faut avoir si on veut travailler l'épître de Jacques et si on sait l'anglais. Dibelius, alors ça c'est un ouvrage assez ancien. Titien, en 64, c'était la 11e édition 64, il date d'avant, de bien avant encore. C'est un ouvrage qui a fait date parce que c'est un auteur qui traite, qui aborde l'épître de Jacques comme étant un ensemble de diatribes. Vous allez voir ce qu'on entend par là un peu plus tard. Ça a été réédité donc de la collection Herménia. Ralph Martin, James Wood, Biblical Commentary. Alors Martin, c'est un très bon auteur de tendance évangélique. Tendance évangélique. Mayor, je dois dire que ce commentaire, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai marqué parce qu'on le cite, mais je ne l'ai pas utilisé vraiment moi-même. Douglas Moo, il a été publié en français. C'est un petit commentaire, collection Sator, qui est très bien fait. Il est vraiment très bien fait. C'est un commentaire qui n'évite jamais les problèmes que pose le texte. Vous savez, l'art de certains commentaires, c'est de développer, faire de la paraphrase, de certaines dissertations aussi, hein. Peut-être de certains cours parfois. C'est de développer sur des pages et des pages ce qui est évident, et de passer sous silence ce qui pose des problèmes dans le texte. C'est justement ce qu'il ne faut jamais faire dans un travail de dissertation, ni dans un cours, ni dans un commentaire. Ce qui est évident, ni dans une prédication d'ailleurs. Vous cassez les pieds aux gens quand vous répétez ce qu'ils savent déjà. Par contre, quand vous abordez le point qui pose un problème, là vous devenez intéressant. Müssner, classique en allemand. Rubes, James Hardy Rubes, a critical and digital commentary on the Epistle of James. International Critical Commentary, c'est une série intéressante. C'est un bon commentaire, très utile. Tasker, je le signale, j'ai utilisé, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est un très bon petit commentaire, très simple, pour l'époque. Mais c'est dans la collection des Tyndale New Testament Countries. Vous savez, à l'époque, ils avaient démarré à un niveau très bas. Et Tasker était l'éditeur, le directeur de la série. Et c'est lui qui avait écrit les premiers commentaires. Mais à un niveau assez bas. Et c'est vrai que pour un travail théologique ou un travail un peu plus approfondi, c'est plus utile. Et maintenant, ils sont en train de renouveler ces commentaires. Et Douglas Moo, que j'ai cité juste auparavant, c'est le commentaire qui a remplacé Tasker dans cette série. Une série dont on relève le niveau. Vouga, François Vouga, l'épître de Saint-Jacques, commentaire du Nouveau Testament, dans la série protestante, là, des commentaires chez Labor et Fides, commentaire très fouillé, dont je ne suivrai vraiment pas les choix fondamentaux de datation, d'approche, mais très intéressant. Si l'on accepte d'entrer dans ses choix, même si on les accepte pas, si vous voulez, si on accepte de réfléchir avec l'auteur à partir des choix qu'il fait. Alors il y a vraiment des remarques très utiles. Commentaire fouillé. Vouga. Pour lui, ce n'est pas Jacques qui a écrit, c'est très tardif, c'est post-paulinien, tout ça se passe après Paul. Et il y a une réaction et une fausse compréhension de Jacques. Il développe beaucoup l'idée de l'action de Jacques qui lutte contre tous les cercles de pouvoir. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de la commune, de l'Église, des riches, etc. Alors, les ouvrages, les articles. Bocam, très bon article d'Intermedios si vous vous intéressez à la famille de Jésus. Excellent. The Relatives of Jesus. Sur Jérusalem, on pense que, d'après cet article, que parmi ceux qui ont exercé des responsabilités au sein des communautés judéo-chrétiennes après la destruction de Jérusalem, il y avait des gens qui étaient liés, du point de vue familial, à Jacques. Les responsabilités dynastiques continuent, d'après ce qu'il essaie de montrer. Après les textes des pères de l'Église que l'on a avec d'autres textes. F.F. Roos, Justification by Faith in the Non-Pauline Writings of the New Testament. C'est un petit article intéressant, mais pas extraordinaire, mais intéressant. F.F. Roos, c'est quelqu'un de très bien. Donc là, vous avez après The Theology of the Letter of James. C'est vraiment intéressant. Peter David, le rapport entre Jésus et Jacques, c'est utile, on y reviendra. Dyerness William, un bon article dans Temelios, la revue des GBU anglais, sur la miséricorde qui triomphe de la justice. Forbes, la structure d'épître de Jacques, oui, bon, j'y reviendrai. Francis Frederick. Alors ça, je vais y revenir, c'est un article que je trouve assez fondamental. C'est la structure. Patrick Hartin, excellent bouquin, très technique, sur Jacques et la source Q. Très technique, très, très intéressant. Hodges Zane, That Faith, was it, What It Is. What Is It. C'est pas extraordinaire. On y reviendra. Joachim Jeremias, c'est trois pages. Mais bon, ses remarques sont intéressantes. Latu Timo, je suppose que ça se prononce comme ça. C'est pour un